48 FM sur Mende avec le 94.1.
L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48 FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48 FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en direct sur 48FM pour un nouveau numéro de L'Oz Actuali. On espère que vous avez bien profité du numéro 6 de L'Oz Actuali, donc notre émission dernière depuis Langogne. On remercie encore Sylvie Fauchet, et puis il y avait un petit clin d'œil aujourd'hui dans la presse du jour avec l'article de Caroline dans Midi Libre sur le sujet. Voilà, donc on continue cette série de Noël, vous allez le voir, avec après le chocolat, le foie gras. Ce sera dans quelques instants. Mais tout d'abord, bonjour à toute l'équipe. On est au complet, tout va bien. Bonjour à tous.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde.
Et donc, nous accueillons pour cette émission Dominique Collas, voilà, qui est productrice de foie gras, de volaille aussi, hein, je crois, sur un... Voilà, non ? Ouais, bon, on en parlera.
Canard et foie gras.
Voilà. Voilà, on parlera de tout ça dans quelques instants, évidemment. Au programme aujourd'hui, il sera question aussi de conflits de génération, c'est ça, ouais, Eric ? C'est ça.
Je vais essayer d'expliquer un peu les générations. Ouais.
Oula !
Gros challenge.
Voilà, nous parlerons aussi des calendriers 2017.
Ah, tu t'es régalé, voilà. J'ai l'impression.
Ouais, je pense que nos auditeurs vont se régaler dans les commentaires du post Facebook de l'émission. Et puis, évidemment, la chronique hashtag, Adeline.
Oui, oui. Alors, par contre, je ne vous ai pas prévenu, mais j'avais prévu un petit quiz pour vous sur la chronique hashtag aujourd'hui.
Ah bah, ça promet.
Voilà, faire un petit peu appel à vos connaissances de l'actualité.
Voilà, et puis, évidemment, une revue de presse avec quelques actus de ces derniers jours. C'est parti. Et on vous rappelle que vous pouvez réagir avec le hashtag justement Loz Actuali sur les réseaux sociaux. Adeline va veiller à tout ça, évidemment, pendant cette émission.
Sachez qu'en plus, on, je ne sais pas si on l'avait dit, on a désormais une page Facebook aussi, oui. Spécifique à l'émission, donc que vous pouvez suivre. Un compte Twitter aussi.
Un compte
Twitter. Voilà,
aussi.
Donc on a tout ce qu'il faut maintenant.
Voilà, donc,
n'hésitez pas.
N'hésitez pas. Et ça vous permet de retrouver sur ces outils aussi le suivi, puisqu'on continue à vous poster des infos au fur et à mesure que les sujets avancent en fonction des différentes histoires. On commence donc avec Dominique Collas. Peut-être on va vous demander déjà un petit peu de nous dire qui vous êtes, de vous présenter. C'est un peu la première partie de l'interview, elle est plutôt pour ça. Dites-nous un petit peu qu'est-ce qui vous amène à être aujourd'hui productrice de foie gras sur le Causse.
Alors bonjour à tout le monde. Eh bien, tout d'abord, la surprise, c'est que je ne suis pas productrice, je suis femme de producteur. Voilà, donc je lui rends les honneurs parce que c'est lui le chef d'entreprise. Donc je suis même pas conjoint collaborateur, disons je suis sa femme et puis je l'aide spontanément. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être là dans ce genre de profession. Alors, qui je suis ? Je suis donc la femme de Jean-Claude Las. Nous avons eu 4 enfants qui sont grands maintenant. J'ai travaillé, moi, dans un hôpital comme technicienne de laboratoire. Et je faisais en même temps le gros travail quand c'était nécessaire sur la ferme, c'est-à-dire à la conserverie. Mais tout ce qui est élevage, c'est sa part à lui.
Vous êtes installée depuis combien de temps à La Tulle, hein, parce que c'est à La Tulle l'exploitation.
À La Tulle, on a acheté la maison en 84. On l'a habitée en 86, il n'y avait personne. Et puis, petit à petit, dans les années 95, les gens sont revenus. Et maintenant, c'est un village, on va dire, complet, avec des maisons neuves qui se construisent. Et tout va bien.
Donc, vous avez quoi comme type de... comme type d'animaux, alors, du coup, sur votre exploitation? On est sur de la volaille, mais du coup, qu'est-ce que vous avez exactement?
C'est rigolo de dire volaille, parce que nous, notre volaille commerciale, ce sont des autruches. D'accord. Alors, effectivement, mais c'est la famille des ratites. Mais c'est vrai que c'est classé aussi dans volaille. Donc, on fait du canard gras, uniquement du canard gras, c'est notre production principale, contrairement à beaucoup, beaucoup d'éleveurs, même du sud-ouest, qui ont d'autres élevages, comme les vaches ou les moutons ou autre chose. Donc, pourquoi on a fait ça? Parce que quand on est arrivé, on n'avait pas de terrain, on n'en a toujours pas beaucoup plus. Et surtout, on a fait du hors-sol. Ça s'appelle du hors-sol, c'est-à-dire des élevages qui n'ont pas besoin de beaucoup de terre. Il y avait le canard ou le lapin. Le canard, moi je suis aveyronnaise côté Lot d'origine et il y en avait toujours chez moi. Donc on a commencé avec les recettes traditionnelles. Puis mon mari a fait des stages, s'est perfectionné. Il est lyonnais, capitale de la gastronomie. Et donc il s'est bien entendu pour faire des recettes et ça marche bien. Voilà, il a fallu se faire connaître. On est parti de rien, quoi, absolument rien, puisqu'il y avait, on n'avait aucun bâtiment, on n'avait aucune clientèle, on n'avait pas de famille qui nous transmettait quoi que ce soit. Donc, on a eu deux produits d'appel au départ, qui ont été la rillette et le cassoulet, même si des fois on s'est fait taper sur les doigts par les gens de Castelnaudary, parce que c'était impossible que notre cassoulet soit bon, puisqu'il n'y avait que le leur. On en a toujours souri, mais effectivement, ça a été nos produits d'appel, ils le sont encore et ça va bien.
Et pour le coup, à votre installation, vous étiez quasiment les seuls en Lozère à faire ça?
Non, il y en avait d'autres. Il y en avait un vers le Châtel-Nouvel.
Pas beaucoup, quand même.
Oui, on était, à une époque, à les comptant tous de tailles différentes, on était 15. Maintenant, on est beaucoup moins. Et je crois que je ne vais pas me tromper en disant que nous allons être, en France, de moins en moins nombreux à gaver comme nous le faisons. C'est-à-dire petits producteurs. D'ailleurs, sûrement, vous allez me parler du virus. C'est vrai qu'il sort des gros élevages, mais les petits producteurs comme nous, qui gavons à l'ancienne avec du maïs en grains, il n'y en a plus beaucoup.
Alors justement, on parle de l'alimentation avec ce maïs. C'est vous qui le produisez ou vous le...
Vous êtes lozérien, hein? Vous voyez du maïs en Lozère?
Je pose les questions.
C'est à 900 mètres d'altitude, c'est impossible. Non, on
l'achète. Ça fait beaucoup rire Jean-Claude, cette question, hein? On lui pose systématiquement, ça le fait rire. Il fallait bien que je la pose.
Il y en a qui font du blé. Oh, je pourrais vous parler de l'économie du village, parce que c'est ce qui arrive, c'est extraordinaire, ça me plaît beaucoup. Non, il y a eu du blé, évidemment, mais le maïs, non. Il mûrit pas.
Donc ça veut dire que c'est des approvisionnements, malgré tout, relativement locaux, enfin, dans...
Oui, on achète le maïs à la Cadoma à côté. On a eu des difficultés au début, quand on a parlé de transgénique, de maïs transgénique, parce qu'on voulait avoir la confirmation qu'il ne l'était pas. Et suivant la législation, personne ne pouvait nous le garantir. Donc on est resté quelques mois comme ça dans ce doute. Et puis après, la législation a pu cadrer un peu cette culture. Et donc on demande du maïs non transgénique, évidemment.
Et alors, c'est un élevage de combien de canards, par exemple, pour préparer Noël?
On fait 120 canards par mois, parce que ce n'est pas Noël qu'on en produit. D'accord. Le plus. On en produit toute l'année, avec un arrêt en juillet-août, parce qu'il fait trop chaud, et que le canard ne supporte pas trop la chaleur et le gavage. Il aime bien le froid, le canard.
Et alors, comment ça marche? Enfin, parce que vous dites tous les mois, mais il vit qu'un mois, le canard?
Alors, le canard, le canard, le meilleur... non, mais c'est des bonnes questions, parce que les gens ne savent pas. Oui.
Vous n'êtes pas les sœurs, vous les achetez poussins?
Alors, on achète les poussins d'un jour et on les gave à 14 semaines, donc à 3 mois et demi. Et là, c'est bien. Et puis après, on les gave encore 15 jours. Donc, on fait l'abattage qu'à partir de 4 mois. C'est un peu comme un poulet, si vous voulez, pour information. Les poulets fermiers, il y a sûrement un cahier des charges. Mais il y a plusieurs critères pour parler d'une bonne viande. Vous avez d'un animal, que c'est l'endroit où il est élevé, c'est sa race, c'est ce qu'on lui donne à manger et c'est aussi son âge. Parce que vous avez des poulets dits fermiers que vous achetez au supermarché, quand vous regardez l'étiquette, c'est écrit en tout petit, mais des fois, ils ont 50 jours. 50 jours, ben, ce n'est pas 2 mois, et ça correspond à du poulet chewing-gum. Alors, il a peut-être beau avoir une bonne alimentation, il est beaucoup trop jeune. Et au tout début, quand on a commencé pour se faire la main, on a travaillé, on était des gaveurs, on va dire engraisseurs, c'est un pléonasme, mais c'est-à-dire que c'était Unicor de Rodez qui nous demandait d'engraisser des canards, on en faisait 200, après il les reprenait et on allait après les aider dans les abattoirs pour la découpe. Et c'est comme ça que Jean-Claude s'est fait la main. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Après, on est passé donc à 120 parce que très vite... Ce qu'on a vu, c'est que personne n'était bien payé. C'est toujours les derniers qui en ont le plus. Donc personne n'était bien payé. Et les éleveurs qui fournissaient ces canards ont compris qu'au lieu de nous fournir un canard à 14 semaines, ils nous le fournissaient à 13, puis à 12. Imaginez quand il a 2-3 000 canards, une semaine d'alimentation, ben il faisait son bénéfice là. À la fin, on avait jusqu'à des fois 11 semaines les premiers canards. C'était l'horreur, parce qu'ils avaient encore le duvet et ça n'allait pas du tout. Maintenant, mon mari s'est sorti. Bon, on a fait ça que 2 ans. Après, il a acheté quand même des canards prêts à gaver, parce que faire naître des poussins, c'est compliqué, c'est une autre entreprise. Il avait acheté des canards prêts à gaver, mais pareil, la race ne nous convenait pas. Et maintenant, on a fini par trouver ces petits poussins. C'est une race ancienne de canards mulards qui sont résistants, qui font un très bon magret et qui nous convient bien.
Donc, du coup, c'est pas 100 sur, enfin, ou 120 sur l'exploitation, c'est 400 canards quasiment en permanence.
Non, voilà, c'est ce qu'il faudrait. Alors, j'ai pas fini. Quand je dis qu'on achète le poussin d'un jour, il est vrai que les derniers qu'on vient de mettre en conserve la semaine dernière, non, c'est pas les derniers, c'est les 20 derniers parce que là, on est en train d'en gaver. Ce sera les derniers de la ferme. Et puis après janvier, février, mars, on achète le canard prêt à gaver à un collègue à nous qui est dans le sud-ouest. Alors là, on ne sait pas ce que demain sera.
Eh oui, du coup,
dans le sud-ouest, il élève les mêmes canards que nous avec une qualité IGP. Donc, c'est-à-dire, on dit qu'il faut 1000 canards à l'hectare. Mais je peux vous dire que les fermes que j'ai vues où il y a 1000 canards, ils sont toujours devant l'abreuvoir et ils vont jamais jusqu'au bout de l'hectare pour manger toute l'herbe. Mais en fait, ils sont élevés comme les nôtres. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que normalement, il fait froid chez nous en hiver et que l'eau des bâtiments gèle dans le sol. Et donc, il n'est pas possible de les abreuver comme on voudrait. C'est compliqué.
Et donc là, la situation sanitaire avec ce risque de maladie risque de vous poser problème dans les...
Alors, on ne sait pas, oui, justement, on ne sait pas ce que demain va être. Le gros avantage que nous avons, c'est que nous sommes des tout petits producteurs et qu'en début 2016, quand le virus, c'était H5N1, est arrivé, il est sorti des élevages industriels du sud-ouest. Donc, ils n'en ont pas trop parlé, mais c'était comme ça. Comment nous le savons-nous? C'est parce qu'à une époque, mon mari a dû faire des formations. Vous savez, il doit faire en permanence des formations pour être aux normes. Et il en a fait une dans le sud-ouest. Il a rencontré le vétérinaire qui était chargé un peu de gérer ce problème. Donc, ce vétérinaire le lui a dit. Évidemment, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire il y a des raisons économiques, c'est pour un peu balancer tout ça. Je ne sais pas trop, non, je ne peux pas dire ça. Le virus, il existe, c'est sûr. Alors, à la suite de ces épidémies, les ministères ont demandé à ce que 1000 fermes dans le sud-ouest soient contrôlées. Donc, ils sont allés un peu au hasard dans des fermes, notamment de l'Aveyron. Et là où il y avait des canards qui n'étaient pas malades, il y avait ce virus hautement pathogène. Il était pathogène, mais pour les autres volailles et pas pour les canards. C'est-à-dire, les canards ne mouraient pas, mais le danger, c'était qu'ils pouvaient contaminer les autres volailles. Alors, reporter chez nous, le sud-ouest est à 3 km quand même, puisque là, j'ai dit là, c'est très bien. C'est presque une aberration administrative, mais bon. C'est surtout que nous, il n'y a pas d'éleveur de volailles tout près. Quoi. Le premier est quand même à 15 km, à vol d'oiseau. Donc, c'est un peu comme dans notre jardin, si vous voulez. Nos salades n'ont pas de poux parce que, et n'ont pas de maladies parce qu'il n'y en a pas d'autres à côté qui les traitent, qui font que...
Il n'y a pas de contagion, du coup, d'autres fermes.
Pour l'instant, non. Alors, on a quand même eu, il ne faut pas dire qu'on n'a rien eu, et on a quand même eu la visite des services vétérinaires, et nous avons à mettre en place un système pour ne pas contaminer le reste de la ferme. Alors, l'avantage, c'est que comme on n'en a pas beaucoup et qu'ils sont dehors, nous, on ne va pas marcher là où ils sont. C'est-à-dire, il faut désinfecter les bottes quand on sort de la ferme. Il faudrait même, ce qu'on a demandé à mon mari, puisqu'il a fait une formation avec tous les volaillers de la Lozère amende, on nous demande même de faire un pédiluve pour les camions. Alors nous, des camions, on n'en voit pas 10 par an qui viennent chez nous, juste pour le maïs bon, et quelques autres. Et donc, ce qu'on fait, c'est que pour s'adapter, ben, vous prenez un sulfateur, vous mettez le produit désinfectant, vous le mettez sur les roues. Il faut quand même respecter une certaine code d'hygiène. Mais c'est pas, on n'a pas été obligé de faire le vide sanitaire. On en a fait un peu, mais on n'a pas été obligé, comme les gens du Sud-Ouest. On n'a pas eu de volailles à abattre parce que le nouveau virus qui vient d'arriver, qui est le H5N8, je crois, lui est hautement pathogène et tue les canards. Ce donc qui, là, au début de l'année, n'était pas le cas. Et la différence aussi avec il y a 10 ans, puisque 10 ans, ce virus est arrivé, il arrivait de l'Est par les oiseaux migrateurs et il était sensible à la chaleur. Ce qui fait qu'on se faisait beaucoup de soucis à l'époque, puisqu'il y a eu la fin de l'hiver, puis le printemps, et les oiseaux sont allés en Afrique. On avait peur que ça les propage dans ces pays-là, où la prophylaxie n'est pas exceptionnelle. Et puis non, le virus est mort. Sous l'effet de la chaleur. Mais ils se comportent tous différemment, donc il faut faire attention.
Bon, ben voilà, on a fait un petit peu ce parcours, un peu la présentation. Dans la deuxième partie de l'interview, dans un petit moment, on parlera un petit peu plus des produits, on se mettra en appétit et en perspective des fêtes de Noël. Mais tout de suite, après la virgule, ça sera Eric pour une chronique sur les conflits de génération. Et ben voilà, c'est à Eric pour ce conflit de génération.
C'est ça, d'une génération à l'autre. Donc je dois bien l'avouer, j'ai choisi mon sujet de chronique en voyant les valeurs représentées par le vainqueur des dernières primaires à droite, qui a mis plus que tout en avant les termes de famille, travail et religion. Et en fait, je ne me retrouve pas vraiment donc, dans ces termes. Alors j'ai voulu essayer de comprendre si ça venait d'une incompatibilité avec la personne, avec le personnage, ou si c'était vraiment plus profond et plus un problème générationnel. Donc alors j'ai fait une petite enquête et puis j'ai vu qu'on parlait de plus en plus des générations X, Y et Z, mais on a un peu de mal à les distinguer. Alors bon, je vais essayer de vous présenter donc les différentes générations et tout cela bon, assez rapidement. Donc je vais essayer en moins de 5 minutes parce que je n'ai pas de temps, ma génération est pressée. Bon. Les générations donc forcément se suivent mais ne se ressemblent pas forcément chacune. Déjà elles sont chacune le reflet de l'époque qui les a vues grandir. Donc les inventions, les nouvelles technologies, les grandes crises politiques, économiques, ce sont des phénomènes qui sculptent les caractéristiques et les valeurs qui seront portées par une génération. Donc si je dois en revenir aux valeurs de famille, travail, patrie, religion, donc, il faut remonter assez loin dans le siècle dernier pour en faire les valeurs d'une génération. C'est vous dire si ces termes ne font pas rêver les nouvelles générations. Bon. Ainsi, pour la génération dite silencieuse. Donc ça, c'est la génération, c'est ceux qui sont nés avant 1945. Alors déjà, pour eux, donc si certains nous écoutent, je vais essayer de parler assez fort et lentement pour qu'ils me comprennent. Ou sinon, je vais vous conseiller de monter le son.
Alors, parce qu'on a des petits problèmes d'antenne. D'antenne à 48 FM en ce moment. Montez le son, vous risquez d'avoir peut-être quelques crépitements. C'est normal. Hein.
Je plaisante. Donc, pour eux, les maîtres mots sont loyauté et sens du devoir. Donc, eux, ils ont vécu durant la guerre, ils ont vécu des temps de guerre et de dépression. C'est une génération qui est marquée par un choix de vie limité. Tout est presque décidé pour eux. Donc on décide pour eux le travail qu'ils vont devoir faire, le mariage qu'ils vont devoir avoir. Et eux, ils ont un vrai sens prononcé du devoir. Ensuite, il va y avoir la génération des baby-boomers. C'est ceux qui sont nés juste à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la fin des années 1950. Et pour eux, les maîtres mots sont la permanence la sécurité et la stabilité. Et pourtant, quand ils ont été jeunes, eux, ils ont des aspirations beaucoup plus contradictoires. Parce que malgré justement ce nouveau respect qu'ils ont pour l'autorité, eux, c'est eux qui ont été les initiateurs de cris de liberté. C'est eux qui ont fait mai 68, qui ont fait la loi pour l'IVG, qui ont formé les hippies. Et maintenant, ils sont plutôt sur le respect de l'autorité, du job à vie. Et ils sont devenus très matérialistes. Et ils ont un rapport ambigu avec les valeurs traditionnelles. C'est-à-dire qu'ils sont attachés à la famille, mais c'est ceux qui ont fini par développer le plus les divorces. Donc on peut aussi maintenant les appeler les papy boomers ou la génération plus que deux. Est-ce que vous savez pourquoi plus que deux ? Plus que deux ans avant la retraite. Ouais, j'aurais pu dire plus que cinq aussi, plus que trois ou plus que cinq, mais plus que deux.
Ça va augmenter.
C'est pour ça.
Il faut être optimiste.
Donc voilà, donc on voit pour eux, les maîtres mots donc, sont souvent liés donc, à la patrie et à la famille et un peu à l'église aussi.
Alors pour faire écho à ton ancienne chronique sur le MAC dernier, est-ce que les sondages ont donné raison du coup à ce nouveau candidat ? C'était les prédictions, non ?
Oui, c'est ça, toutes dernières prédictions, c'était sur M. Fillon, voilà. qui a largement gagné les primaires à droite. Ouais. Après, donc, nous avons maintenant, après les baby-boomers, nous avons la génération X. Donc ça, ce sont les personnes qui sont nées dans les années 60 et 70. Alors eux, ils sont rentrés dans une...
Il y en a autour de la table.
C'est ça. Eux, voilà, contrairement aux baby-boomers, eux, ce qu'ils veulent, c'est réussir leur vie et pas réussir dans la vie. Leur problème, c'est qu'ils sont passés après donc, la génération des baby-boomers qui ont eu des possibilités d'emploi presque infinies. Et eux, ils sont arrivés justement à la fin de ça. Donc c'est vrai qu'ils ont pris un peu les jobs qu'ils pouvaient avoir, qu'on pouvait leur proposer. Ils ont tout fait pour s'accrocher à leur poste. Et essayer de gravir les échelons après à ce moment-là. Donc eux, ils privilégient plus l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et ils sont donc bien plus critiques face aux institutions. Ensuite, on a donc la génération Y. Ça, c'est ceux qui sont nés à la toute fin des années 70 et jusqu'au milieu des années 90. Alors Y, on pourrait presque le dire par rapport...
Il y en a aussi autour de la table.
C'est ça. Par rapport au mot...
beaucoup.
Un mot qui pourrait leur correspondre, c'est beaucoup. Why en anglais, qui va bien avec le Y. Why, pour pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils veulent toujours savoir pourquoi. Pourquoi faire les choses. C'est-à-dire, ils ne veulent pas qu'on leur impose. Ils veulent comprendre pourquoi on leur dit de faire les choses, que ce soit dans la famille ou à l'école ou après dans le travail. Mais aussi, ça peut être la génération why not. Pourquoi pas ? Parce que eux, c'est pareil, ils sont ouverts à toutes les expériences. C'est-à-dire, on leur propose de partir là, ben oui, tiens, pourquoi je partirais pas là ? Ils sont d'accord pour tout ça. Après, la grosse différence qu'il va y avoir par rapport aux générations précédentes, c'est que justement, contrairement aux générations précédentes, c'est pas eux qui, ils n'ont pas tout appris des générations qui les précédaient, mais c'est eux qui ont eu besoin d'apprendre aux générations qui les précédaient. Pour tout ce qui concerne les nouvelles technologies, par exemple. C'est-à-dire que leurs parents n'y connaissaient pas grand-chose, vu que ces nouvelles technologies sont nées avec eux. Donc c'est eux qui ont appris à leurs parents. Et ça a changé un peu la hiérarchie dans la famille. Au lieu que ce soit un vrai patriarche qui soit tout en haut, c'est devenu un peu plus collaboratif. Et donc toute cette génération a cherché à retrouver ce système collaboratif, mais que ce soit à l'école. Donc c'est pour ça le pourquoi. Ils veulent savoir pourquoi on leur demande ces choses-là, que ce soit donc à l'école et au travail. Donc c'est vrai que c'est ça qui va un peu définir cette génération, qui veut aussi aller... tout plus vite, parce qu'ils sont nés avec la télévision Internet, et la télévision Internet, c'est tout plus vite que ce qu'il y avait avant, qui était la radio ou les journaux papier qui étaient...
C'est très zapping, plus long, ouais. Du coup.
Aussi. Oui, c'est très zapping aussi. C'est beaucoup plus... ils recherchent plus la consommation, le zapping, tout ça, tout va plus vite. Après, il y a la dernière génération, c'est la génération Z. Alors, on pourrait presque dire que c'est une génération Y version 2.0. Mais ce n'est pas exactement ça. Il y a quand même des subtilités entre les deux. Déjà, ça allait vite avec la génération Y.
Donc, c'est les nés, c'est les 2000 ?
Ouais, après 95. Ouais.
Ouais.
Ceux qui commencent à avoir 18 ans. Moins de 18, moins de 20 ans. Et eux, ça va... En fait, ça va encore plus vite. C'est-à-dire que, par exemple, c'est le tatouage à 10 ans. C'est l'épilation totale à 12 ans. C'est...
Mon Dieu, voilà.
Et j'en passe. Après eux, leur
problème. Portable à quel âge hein.
C'est ça. Après eux, leur problème, c'est que justement, la société, elle n'est pas forcément adaptée à la vitesse à laquelle ils ont appris les choses. C'est-à-dire, comme ils ont tout appris plus vite que tout le monde, après, tout le reste de la société n'a pas évolué aussi vite. Donc, ils ont un peu de mal à trouver leur place dans le monde qui les entoure. Par exemple, eux, on peut remarquer qu'eux, ils ne connaissent pas Jean-Paul Belmondo. Non, ça, ils ne connaissent pas. Pour eux, Mitterrand, c'est un personnage historique. La DS, c'est d'abord une console de jeu, c'est pas une voiture. Même si la voiture est un peu revenue à la mode, surtout pour la génération X, justement. Alors, eux, maintenant, ils commencent, par contre, à être un peu plus concernés par l'économie solidaire, par l'impact de l'activité de l'homme sur la planète. Eux, ils commencent vraiment à connaître ces termes-là, ce que connaissaient pas les générations d'avant. C'est-à-dire qu'avant, on se disait qu'on pouvait toujours tout exploiter, il n'y a rien qui ne se passerait. Eux, maintenant, ils commencent à être un peu plus sensibilisés par rapport à tout ça. Donc ils sont déjà concernés par tous ces éléments-là. Et ils vont essayer de créer leur propre expérience, vu qu'eux, il faut qu'ils créent tout ça. Ça n'existe pas, tout ce qu'ils sont en train de vivre. Donc voilà un peu ce qui différencie toutes les générations. Et c'est pour ça que je crois qu'il est difficile, maintenant que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de la politique, de pouvoir s'exprimer devant tout le monde. Et là, j'ai eu l'impression, par exemple, en politique, on a pu le voir il y a quelques années, c'est-à-dire que c'est la génération Y, qui n'est pas forcément très politique, qui s'est mise justement à aller voter, c'est eux qui ont élu Obama. C'est-à-dire que c'est pas les générations précédentes qui l'ont élu, c'est aussi cette génération qui a fait les printemps arabes. Et là, on a l'impression qu'on a un retour en arrière, que les générations précédentes, justement, ont un petit peu peur et essayent de revenir vers l'avant, de redonner certaines valeurs. Et donc, c'est ça qui me fait bizarre, moi. C'est pour ça que je ne me reconnais pas toujours dans tout ce qui est dit en politique. Il n'y a pas forcément de renouvellement, surtout en France. Alors, je ne sais pas s'il y en a un peu ou pas, mais non, je ne crois pas dans le monde, le monde qu'il y a. Donc voilà. Après, les générations, elles sont faites quand même aussi pour vivre ensemble. Et chacun peut amener à tout le monde. Je vais terminer ma chronique sur une note un peu plus positive, on va dire, puisque justement, dans quelques jours, je crois que toutes les générations vont se retrouver autour du sapin et vont passer un très bon moment ensemble et que là, il n'y aura plus du tout de sujet de conflit de génération.
On verra la différence des générations dans les cadeaux, peut-être, entre les Y, les Z.
Ce que tu dis sur la génération X, avec cette sensibilisation un peu au devenir de la planète, laisse plutôt optimiste.
Oui.
Parce que justement, je pense qu'ils sont peut-être plus sensibles à...
C'est ça. Après, je crois qu'il y a aussi... Après, les dernières générations sont un peu perdues, justement, par rapport à ce monde qui évolue vite. Donc, ça peut expliquer aussi certains conflits actuels. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop non plus de quoi demain sera fait, vu qu'on n'a plus trop de repères. Donc, c'est vrai que je crois qu'il y a ces deux côtés. Oui. Il y a un côté, une crainte, c'est-à-dire de partir dans l'inconnu. Mais ça ne fait pas forcément peur à cette génération qui a envie de tout découvrir, de tout développer. Et puis il y a ce côté aussi où elle va devoir apprendre aussi à préserver le monde qui l'entoure. Voilà.
Dominique, ça vous fait réagir tout ça ?
Oui, un petit peu, parce que moi je suis de la génération invisible apparemment.
Silencieuse.
Oui.
Après, ce sont des généralités.
C'est juste après les 68 ans, c'est-à-dire que j'avais 12 ans en 68, et nous, notre génération, ça a été l'apprentissage de la liberté. C'est-à-dire que les 68 ans ont demandé la liberté et nous, elle était à portée de main, donc il a fallu la prendre ou la laisser. Moi, je l'ai prise. Ce qui fait de nous des personnes indépendantes et donc beaucoup plus libres et donc beaucoup plus sereines dans la vie quand on est comme ça. Voilà, pour moi, ça a été une très très bonne chose. Et puis, quand vous parlez des dernières générations, puisque moi je passe à mes enfants, c'est vrai que j'ai connu donc mes parents juste à l'après-guerre, où il fallait faire attention à tout ce qu'on faisait, où on apprenait à consommer juste. Et puis après, on est arrivé, là on sort, j'ai l'impression moi, qu'on sort d'une période faste au niveau des retraites, au niveau de la consommation, au niveau des loisirs et tout ça, mais que ça va devenir difficile puisque les salaires ne suivent pas forcément à niveau égal, mais surtout nos enfants, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils apprennent spontanément la solidarité, comme vous voyez dans le covoiturage, comme vous voyez dans les colocations. Il y a 30 ans, une colocation, oulala, il fallait que les parents se rencontrent, quoi, pour que deux ou trois personnes vivent ensemble, deux jeunes vivent ensemble. Donc, c'est vrai que tout ça, ça a changé aussi. Moi, j'ai confiance aux jeunes. J'ai confiance aux jeunes. Et je me dis que c'est vrai que ceux qui sont difficiles, qui sont délicats avec la société, c'est des gens qui n'ont pas eu leur chance, qui n'ont pas eu la possibilité de voir le monde, qui ne se sont pas ouverts. Et c'est dommage. Mais pour la plupart, ils sont formidables. Et je le vois parce que, une petite parenthèse, je suis dans une association à la Canourgue où on a des projets jeunes aidés par la CAF, la CCSS et tout. Et on se rend compte qu'il y a un potentiel. Il suffit simplement, comme nous à notre époque, qu'il y ait quelqu'un qui les aide. Et ouais, l'avenir est bon pour eux. Pas pour eux, mais avec eux, je crois que l'avenir sera pas mauvais.
Justement, un de vos enfants est avec vous sur l'exploitation ?
Oui, alors lui, il a beaucoup voyagé. Il a eu un BTS cuisine. Et puis, il a voyagé. Il est parti à Londres. Et puis, après, beaucoup dans les pays asiatiques. Et puis, il est revenu. Un jour, il est revenu. Il a dit à mon mari, je regarde ce que tu fais. Si ça me plaît, je reste. C'était totalement inattendu parce que justement, nous, par rapport à cette liberté dont je vous parlais, nous n'avions jamais eu une vue où nous ne voulions pas avoir un impact sur nos enfants par rapport à la succession de l'exploitation. On a créé ça pour gagner notre vie, mais pas pour l'imposer à nos enfants. Et il est venu spontanément et il a du potentiel. Ah là là, oui, il a du potentiel. Vous le verrez sur le marché.
Bien, on va faire une première pause musicale dans cette émission. Et donc, comme c'est la tradition, on a demandé à notre invitée ce qu'elle souhaitait écouter pour cette pause musicale. Et donc, qu'est-ce que vous nous avez choisi ?
Alors, j'ai choisi Catherine Le Forestier, Va donc voir mes voisins.
Si vous voulez parler de ces pays lointains où l'on meurt de misère et de faim, des enfants du Biafra et des petits Indiens à deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. Vous ne trouverez pas leur nom dans le bottin. Moussa et Mohamed et Salem, et vous aurez du mal à trouver le chemin à deux pas de chez moi. Allez voir mes voisins. La concierge me dit qu'ils ne sont bons à rien, qu'ils n'ont pas les manières de chrétiens, qu'ils respirent notre air et mangent notre pain à deux pas de chez moi. Allez voir mes voisins. C'est vrai que nos grands-pères étaient des gens de bien, qu'ils avaient des manières de chrétiens. Quand ils ont pris la terre d'Afrique aux Africains, à deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. Ils ont fait de ces hommes, vos grands-pères et les miens, des balayeurs et des fantassins. Et si le pain est cher, leur vie ne coûte rien. À deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. Au concours des misères, leurs taudis valent bien. New Delhi, Calcutta ou Harlem, c'est aussi pittoresque et c'est beaucoup moins loin. À deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. vous les voyez traîner de Montrouge à Pantin. Pourtant, ils pourraient bien un matin venir vous réveiller, vous qui dormez si bien, à deux pas de chez moi. Allez voir mes voisins. Si vous voulez parler de ces pays lointains où l'on meurt de misère et de faim, des enfants du Biafra et des petits Indiens, à deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. À deux pas de chez toi, va donc voir tes voisins.
Allez, on se retrouve pour la partie 2 de cette émission. Et tous mes camarades ne peuvent pas prendre la parole.
Ça s'active dans le studio.
La pause. Voilà, la pause a servi à, pour tout vous dire. Vous retrouverez les photos, évidemment, sur Facebook et sur Twitter. C'était la préparation des petits encas de foie gras pour découvrir. Donc voilà, tout le monde a croqué dedans.
C'est délicieux.
Voilà. C'est excellent.
Voilà, ouais. Voilà, accompagné d'un peu de côte de Bergerac, avec toujours modération. Dominique Collas, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu justement les produits aujourd'hui qui sortent de chez vous?
Alors, c'est la ferme d'autrefois, il faut le dire, voilà. Quand même. Hein, c'est la ferme
aux saveurs d'autrefois.
D'autrefois, un jeu de mots. Oui.
Ben oui.
Et nous habitons donc à La Tulle, au-dessus de la Canonque. Donc, les produits, le produit phare, c'est le foie gras. Le foie gras, c'est vrai que on se dit, au début, on disait, notre foie gras, comment il est, pourquoi il est meilleur que les autres, on ne le savait pas, puisqu'on a toujours fait comme ça. Et effectivement, des fois, c'est du caramel quand vous l'achetez dans les supermarchés, qu'ils viennent d'ailleurs. J'en parlerai des heures là-dessus. Mais le nôtre, alors non, on fait du foie gras. Comme je vous disais, on fait des rillettes, puis des pâtés. On fait des plats cuisinés, c'est le cassoulet et les lentilles. Alors, les lentilles ont du succès en ce moment parce que, justement, les gens qui font attention à ce qu'ils mangent, c'est la mode de manger des lentilles parce que c'est riche en fer. Voilà, c'est la mode. J'en vendais pas vraiment beaucoup sur les stands quand je faisais des marchés. Et en ce moment, j'épuise mon stock. Voilà.
Et puis c'est très local en plus, la lentille verte du Puy.
On l'achète justement. Et là aussi, on est encore à la campagne. Il y a une jeune femme qui habite à La Canogue, dont le papa est producteur de lentilles au Puy. Donc on lui achète les sacs. Et quand elle va avoir son papa et qu'elle revient, nous ramène les sacs de lentilles à AOC. Voilà.
Ah ouais, oui. Des bons produits. Donc comment ça se passe? Vous cuisinez, vous avez donc un laboratoire de transformation et vous faites à la fois la préparation donc des foie gras, des...
Ah oui. Alors quand on fait, comme je vous disais, 120 canards par mois, mon mari va les gaver pendant 15 jours et après on fait l'abattage. Donc c'est l'homme, on est tous les deux, maintenant il y a mon fils qui vient nous aider, mais... on est tous les deux, donc on fait 60 canards le lundi, 60 le mardi. Le mercredi, on découpe les 120, puis jeudi, vendredi, samedi, on les cuisine. Donc c'est un travail, si vous voulez, il a fallu s'adapter, parce que embaucher quelqu'un, comme on est des petits producteurs, c'est trop compliqué, surtout parce qu'on n'a pas un revenu tout au long de l'année. Les premiers 5 mois de l'année, on ne vend pas beaucoup. Donc c'est difficile de sortir un salaire à ce moment-là. Quand on fait l'abattage du canard, on sort le foie gras à chaud. C'est ce que beaucoup de gens qui voudraient faire leur foie gras en verrine, c'est-à-dire en conserve, aimeraient bien, et peuvent d'ailleurs venir chez nous pour acheter le canard entier. Mais on sort le foie gras à chaud, je l'évène immédiatement. On ne dit pas dévenner, mais on dit évenner un foie gras. Je les vanne immédiatement parce que la chair est moelleuse et donc je peux enlever les veines en entier. Que quand le foie gras est dur, c'est très difficile. Et puis, comme on est des producteurs fermiers, on attache beaucoup d'importance à la finition, au plumage, justement, à l'événage, pour pouvoir fournir un produit de qualité, mais qui n'ait pas non plus ces petits inconvénients là, de l'industrie. Alors, ce foie gras, aussitôt après, dès qu'il est événé, je le mets en bocaux. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille par plateau. Des plateaux de 10 foie gras. Hop, je change de pièce, puisque vous savez, dans notre atelier agroalimentaire, nous sommes aux normes CE. Donc, il y a le principe de la marche en avant. Avec un animal, on commence à un endroit, on revient jamais sur nos pas. Mais il y a aussi une pièce pour chaque fonction. Donc, il y a une salle d'abattage, une salle par une lucarne sur un petit... une petite chaîne, une chaîne, comment dire un peu ça ?
Un tirail.
Des crocs, pas de boucher. Il passe dans la parine de lucarne, dans la pièce à côté, où c'est la pièce d'éviscération et où je sors le foie gras. Et puis après, je vais dans la pièce froide où je vais événer le foie gras. Voilà. Et donc, on le met en pot, sel, poivre, porto, c'est tout. C'est du vrai foie gras. Après, il y a le bloc de foie gras, donc... J'en profite pour expliquer qu'il y a...
Expliquez-nous, parce que c'est important, ça,
voilà, il y a trois appellations officielles vis-à-vis des fraudes. Trois appellations officielles, c'est foie gras de canard entier, foie gras de canard et bloc de foie gras. Le foie gras de canard entier, c'est le foie gras d'un seul animal dans un pot. Mais ce n'est pas un foie gras de tout l'animal, puisque nos pots font 330 grammes ou 180 grammes, donc on pèse chaque morceau de foie gras avant de le mettre. On pourrait croire que c'est un seul morceau, mais comme on va événer, on est obligé de trancher donc cette chair quoi, pour enlever les veines. Donc, il est quand même un peu fendu. Et le foie gras de canard, c'est la même qualité gustative, mais c'est des morceaux de foie gras de plusieurs fois. On pourrait se dire qu'il a une moins bonne tenue à la découpe quand on l'ouvre, mais à la cuisson, ça se reconstitue un peu, donc ça ne va pas chercher loin. Et puis le bloc de foie gras, là où beaucoup de gens pensent que c'est le meilleur, le bloc de foie gras, normalement, se fait avec du foie gras déclassé. Déclassé, c'est-à-dire un foie gras déclassé, c'est un foie gras trop gros, supérieur à 550 grammes, un foie gras trop petit, inférieur à 350 grammes, ou alors un peu rosé. Voilà. Mais comme nous, on est des petits producteurs fermiers, on fait du foie gras, on fait du bloc une fois par an, parce que c'est une machine qui coûte très cher, qui s'appelle un Stéphane, et qui donc on va le faire chez quelqu'un. On va louer une journée pour le faire. Donc quand on fait une série, on prend tous nos foie gras. Effectivement, on en a des petits et des gros, mais on prend tout ça. Alors ce foie gras, il est malaxé. Il est dans un récipient qui a une double paroi où il y a de l'eau chaude qui circule, qui va le ramollir et on va rajouter du sauterne. Et ça, c'est une opération qui est assez délicate. C'est un peu comme une mayonnaise, si vous voulez. Si vous ratez un peu de quelques degrés la température d'un des ingrédients, après, à la cuisson, ça se sépare. Vous avez la graisse d'un côté et le concentré du foie gras de l'autre, c'est pas bon. Donc, c'est délicat à faire. Et ça, c'est très bien pour tartiner. Voilà, pour faire des toasts.
Voilà, on a l'eau à la bouche. Là.
Voilà, on a l'eau à la bouche et puis au moins on a les consignes pour, ouais. Pour préparer. Alors,
Dominique et puis son fils sont des bons cuisiniers. Comment on mange le foie gras chez Olas à Noël ?
Oh là là ! Eh bien, on mange déjà. On va manger le foie gras au torchon. Le foie gras au torchon, moi j'ai dû m'y habituer puisque. Comme je vous disais, chez moi, on faisait le foie gras en verrine. Et mes sœurs et moi-même, on est toujours fans du foie gras en verrine parce qu'on a toujours été habitués comme ça. Et j'ai mis du temps avant de m'adapter au foie gras au torchon. Mais le foie gras au torchon, alors là, vous avez les cuisiniers qui vous disent qu'il est exceptionnel, les épicuriens, voilà, c'est le summum du foie gras, celui qu'on va vendre maintenant. Alors, en fait, c'est un foie gras, c'est plus cuit dans un torchon, puisque au niveau des services vétérinaires, ce n'est plus autorisé. C'est cuit dans un film alimentaire. Donc, on dépose notre foie gras, on va mettre du sel, du poivre, un peu de cognac, là. On va le rouler dans ce film, de façon à ce que ça fasse un peu comme un saucisson, et c'est trempé dans un bouillon avec pratiquement chronomètre et thermomètre à la main. Et puis, quand on le ressort, on le met à la chambre froide. On attend qu'il caille, on va dire. Et puis, le lendemain, en enlevant ce film alimentaire, on enlève toute la graisse qui a fondu, ce qui fait que vous avez vraiment que le foie gras. Et la différence avec celui qui est en verrine, c'est qu'il est moelleux, vraiment très moelleux. Il fond dans la bouche et il a un goût. Ben là, la semaine dernière, j'étais à Paris, en fait, dans la région parisienne, sur un salon. Et il y a un groupe de cuisiniers qui sont venus. Ils ont même dit, on va chez eux, on prend tout, on le revend chez nous à Paris. Et puis, donc, ils voulaient presque prendre notre production. Mais j'ai dit, nous, on est des petits producteurs, on peut pas suivre. Mais ils ont dit, j'ai beaucoup entendu ce mot, c'est une tuerie.
Moi, je peux vous dire que c'est divin, parce que je l'ai goûté l'année dernière pour les fêtes, et il est vraiment très, très bon. Alors justement, Dominique, on peut le trouver où ?
Mais est-ce que vous avez goûté, là, d'abord
Moi, j'ai fini. En fait, moi,
j'ai déjà fini. Parce que moi, j'en ai pas eu encore. Hein, donc,
On va lui faire sa tartine.
On peut vous retrouver, là, maintenant, sur les marchés de Noël, Dominique.
Oui, oui. Alors, on a mis une annonce dans les journaux. Et donc, on va faire les marchés de Noël ici à Mende, comme chaque année. Et puis, je vais aller à Saint-Alban, à Grand-Rieu, à Banassac, à Chanac. Et je vais faire les marchés hebdomadaires de Marvejols et Lacanau.
Et c'est possible de venir aussi à la Tuelle directement?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Le mieux, c'est de téléphoner, parce que si jamais... on est parti faire des courses et que vous arrivez à ce moment-là, c'est dommage. Mais oui, oui, on est là, oui, oui, bien sûr. On a tout chez nous.
Et c'est possible d'acheter aussi du foie gras non transformé pour ceux qui voudraient...
Non, bonne question. Non, on ne vend pas le foie gras frais.
Voilà.
On n'en vend pas parce qu'on n'en a pas assez.
D'accord.
J'irai voir que vous étiez aussi sur bienmanger.com.
Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est des gens qui sont c'est des jeunes. Des jeunes, ben voilà, ils sont adultes maintenant. On a beaucoup aimé leur parcours parce qu'eux aussi, ils sont partis de rien. Et c'était des jeunes qui avaient un projet, la génération Y, je ne sais plus dans laquelle elle est. Ils avaient un projet, ils ont été sérieux, ils étaient bons. Et voilà, c'est comme ça que maintenant, leur entreprise est installée à la zone industrielle de la Tuelle.
Oui, vous êtes presque le producteur le plus proche pour eux, finalement.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui.
Alors, bien évidemment, il ne faut pas hésiter à aller à la Tuelle chercher son foie gras pour Noël. Hein. Il y a une petite boutique à la ferme aux saveurs d'autrefois. Mais il ne faut surtout pas hésiter d'y aller l'été.
Oui,
parce que c'est vraiment une après-midi super sympa. Avec, au final, le petit goûter de Dominique. Mais vraiment, si vous avez des enfants en famille, c'est vraiment une après-midi super. Donc, n'hésitez pas l'été, parce que vous faites de nombreuses visites. Hein,
oui, oui.
Toutes les deux, trois jours.
En fait, sur notre exploitation, il y a la production, l'élevage. Il y a la conservation. Et puis, il y a aussi la vente. Alors, la vente, c'est les marchés locaux au moment de Noël. C'est quelques salons qu'on fait depuis 20 ans maintenant. Mais c'est aussi ces journées fermes ouvertes où les gens viennent chez nous. C'est pour ça qu'on a eu des autruches, pour que les gens aient quelque chose d'un peu plus mieux à voir que des canards. Surtout qu'en été, comme je vous disais, on n'en a pas beaucoup, quoi, parce qu'on n'en gave pas. Et donc, ces journées... c'est un peu parti d'une idée, comme nous avons 4 enfants, et quand on partait en vacances, on louait une semaine par an, et c'est vrai que quand il fallait s'arrêter pour acheter boire une menthe à l'eau, ça grévait le budget des vacances. Et donc j'ai eu cette idée d'accueillir les gens, mais vraiment de les accueillir, parce que je trouve que les vacances, c'est quelque chose de précieux, que souvent on met de l'argent de côté toute l'année pour passer de bonnes vacances et que nous, les prestataires du tourisme, on n'a pas le droit de gâcher les vacances des gens. Donc on les accueille, on leur offre du café, de l'eau et du sirop et je fais mon fameux gâteau, la foisse à l'œuf d'autruche. Et puis après, on va les amener voir les animaux et on n'oublie pas de les faire passer dans l'atelier agroalimentaire puisque, comme je vous disais, on ne travaille pas pour leur expliquer les normes, pour leur expliquer ce qu'est le produit fermier et pour leur dire qu'ils peuvent avoir confiance en nous, puisque nous, du départ jusqu'à la fin, nous savons ce que nous faisons.
Voilà, ça donne envie. Super après-midi, ouais. Vraiment, je vous le recommande fortement.
Et donc pour Noël, on l'accompagne avec quoi, le foie gras?
Oh, avec beaucoup de choses. quand moi j'ai du monde et que je suis toujours pressée, ben je vais couper des petits. Je vais donc mettre sur mon plat des abricots secs, moelleux et des figues. Je les coupe comme pour faire des petits copeaux. Sinon, vous pouvez l'accompagner. Je fais aussi autre chose, c'est que je prends des pommes, je les coupe en lamelles et je les fais confire, on va dire, confire dans la graisse du foie gras. Et donc, elles vont ramollir sans vraiment griller. Et je les fais tiédir et je les mets autour du foie gras. Et ça va bien. Et surtout, en général, quand on sert du foie gras et qu'on est entre copains, c'est assez convivial. J'adore voir les copains qui vont piquer la petite tranche de pomme sur le plat, comme ça. C'est convivial.
Et vous mettez quel vin avec le foie gras ?
Oh, il y en a plein. On a connu les Alsaces, le Tokay Pinot Gris... Pas le Gewürz. Le Gewürz, il y en a qui l'aiment bien, mais je le trouve trop fruité. Vous avez aussi le Jurançon, qui est très bon. Puis après, vous avez le Mont Basillac. Il y a aussi dans les Bordeaux, le Sainte-Croix-du-Mont.
Sauterne.
Sauterne aussi, oui. Il est très sucré, le Sauterne. Mm. Le Jurançon, les moins. Mais enfin, bon, il y a la Pléiade. Le vin. D'ailleurs, là, il y en a un où vous avez choisi pour manger avec notre foie gras un côte de Bergerac blanc moelleux qui a l'air pas mauvais.
Donc, plutôt du blanc.
Oui, plutôt du blanc, oui.
Alors, nous, à la maison, on le mange avec un vin des Pyrénées, le Vic-Bil de Pacherin. Je vous le recommande parce que c'est un vin peu connu, mais qu'on commence à trouver un peu partout quand même.
Il faut se rappeler du nom.
Voilà,
déjà.
Je le noterai, on le notera sur la page sur Facebook.
Mais ça peut aussi être avec du Bagnouls.
Bien sûr.
Ça passe très bien avec certains vins rouges aussi. Très bien, ben merci beaucoup de ce témoignage, Nicolas. Vous restez avec nous, évidemment. On va continuer cette émission tout de suite après la virgule et on va parler de calendrier.
Merci à vous.
Alors Guillaume, tu vas nous parler calendrier, tu as fait ton petit marché des calendriers de Noël.
Mais en fait,
calendrier 2017.
Oui, voilà, les calendriers 2017. Et en fait, j'ai vu en réaction un tweet sur Facebook, je ne sais plus, ces derniers jours, une invitation aux jeunes agriculteurs lausériens.
À faire un
calendrier. Et donc je me suis dit tiens, bah voilà une idée pour faire une chronique. Et donc évidemment on va parler de tous ces calendriers qui sont issus finalement un peu de la tendance qui avait été lancée par les dieux du stade initialement. Alors justement, si on parle, bon, pour rester un petit peu en lien avec l'agriculture.
Oui, c'est ça, l'invitation était en lien avec un calendrier qui vient de sortir.
Voilà, donc il y a évidemment donc un calendrier des jeunes agriculteurs de la Manche. Voilà, qui pose nu donc dans leur calendrier. Donc c'était au profit de la 30e édition du Téléthon ce week-end. L'objectif c'était d'atteindre 50 000 euros. Donc j'ai pas eu le retour, mais voilà, ils avaient réussi à récolter 41 000 euros l'année dernière. Donc peut-être une idée pour nos jeunes agriculteurs locaux. Alors en fait, finalement, c'est de plus en plus de causes qui sont défendues au travers de ces calendriers.
Pour celui-là en question, moi je mets en doute que ce soit vraiment des agriculteurs.
Ouais. Non, c'est pas le même.
Beaucoup d'intérêt pour ma part, je l'ai feuilleté aussi.
Vous confondez avec celui d'après.
Ah zut, alors bon,
parce que,
c'est
en fait,
celui de la Somme.
C'est la Manche. Mais vous avez aussi un calendrier qui a été fait par Fred Goudon, qui s'appelle le calendrier des agriculteurs, qui est le premier photographe qui a créé justement les dieux du stade. Et donc c'est vendu dans l'idée de faire des petites excursions champêtres. Alors je vous rappelle que vous pouvez également retrouver les films Attractivité pour venir en Lozère. Puisqu'ils sont publiés aujourd'hui, vous retrouverez.
C'est pas tout à fait la même thématique, on n'a pas posé.
Non, mais vous avez donné un peu de votre corps. Hein. Mais je suis d'accord, effectivement, ça fait pas forcément très très.
Ce sont des mannequins, ça doit être, c'est sûr.
Voilà, ça fait beaucoup plus mannequin. Voilà.
On n'a pas ça dans nos fermes.
Là, 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 là. Si,
alors, je voulais vous parler aussi de toujours dans ces calendriers, d'une initiative assez intéressante en Seine-et-Marne. C'est un donc dans un, ça s'appelle le village du 115 qui donc ce sont des SDF qui ont posé nus pour être enfin vus. Voilà, ils disent se mettre à poil pour nous, c'est un véritable défi personnel. Cela permet aussi de prouver que nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Voilà, donc un calendrier où 12 d'entre eux, hommes et femmes, se mettent à nu avec un humour décapant de par le style des photographies et ses légendes. Un calendrier rebaptisé calendrier du sans destin fixe. Voilà. Alors on retrouve Olivier le mécano, king de la clé de 12, Michael le démolisseur, Dorian la cuisinière. Donc voilà une initiative assez assez originale et celui qui est l'initiateur de ce projet dit ce que nous voulons c'est présenter ces SDF comme des personnes normales car finalement dans la rue ces hommes et ces femmes sont à poil toute l'année et au village du 115 donc là le lieu qui les accueille nous les remettons en scène. Voilà donc ce projet qui est assez original. Donc vous pouvez retrouver certaines des photos. Vous mettra évidemment tous les liens sur la page Facebook de l'émission. Après, évidemment, il y a aussi des initiatives pour lutter contre l'homophobie qui sont menées dans ce cadre aussi de ces calendriers, avec l'équipe d'aviron de l'université de Warwick au Royaume-Uni. Donc avec un nouveau calendrier 2017, sachant que c'est fait depuis 2009 qu'ils ont cette action, et vraiment dans la lutte, qui est inscrite dans l'idée de lutter contre l'homophobie, et particulièrement dans l'homophobie dans le monde du sport. Donc voilà une initiative intéressante. Alors là, on ne voit pas très bien les photos hein, sur l'article. Après, par contre, là, on voit beaucoup mieux les photos. Ah. Ce sont les rugbymen des Gaillards qui se déshabillent en équipe. C'est un club de sport gay-friendly en France qui a déshabillé ses joueurs homo et hétéro. Voilà, au programme, hein, ça va vous faire rêver. Vestiaire, douche et plaquage.
Oui, surtout que le rugby, c'est un monde où...
Oui, voilà.
On ne doit pas beaucoup parler de...
Voilà. Mais on parle aussi rugby féminin avec le rugby Namur 15 qui révèle, il y a deux calendriers, il y a le calendrier masculin et le calendrier féminin. Donc voilà, hein, je vais donner le féminin un peu à Eric aussi. Voilà. moi, je trouve le plus naturel, le plus sympa, je trouve que c'est les marins pêcheurs d'Oléron. Qui ont sorti un calendrier 100% naturel. Ils viennent de le rééditer parce que ça a eu vraiment un très très gros succès. C'est vraiment, ils se prennent pas au sérieux, c'est assez marrant. Et c'est évidemment la cause qui est défendue, c'est l'association des péris en mer. Donc c'est aussi une façon de d'apporter à leur activité. Alors évidemment, là je vous parlais donc évidemment pour vous mesdames, hein, mais bon on va parler aussi un petit peu de femmes dans ce calendrier, ces calendriers, et avec Pirelli, hein, le fameux.
Le calendrier qu'on connaît le plus quand même, c'est celui-là.
Et qui a depuis plusieurs années vraiment prend des choses de plus en plus autour du naturel. Et donc cette année encore plus finalement avec pas de maquillage ni de retouche pour ce calendrier Pirelli. Ce sont des poses sensuelles et glamour, pomponnées comme sur n'importe quel shooting de mode. Peter Lindbergh a poursuivi la révolution amorcée par Annie Leibovitz en 2016. C'est donc le naturel qui a été mis à l'honneur, avec la volonté donc de célébrer la beauté sous toutes ses formes. Le photographe allemand a shooté ses modèles au naturel et ne les a pas retouchés. Et sur les 15 femmes qu'il a immortalisées, 8 ont plus de 40 ans. Nicole Kidman, Penelope Cruz, Helen Mirren, Julianne Moore, Charlotte Rampling, Uma Thurman, Kate Winslet et Robin Wright se sont ainsi prêtés au jeu. Et on retrouve aussi sur le calendrier Léa Seydoux, Lupita Nyong'o, Alicia Vikander, Rooney Mara, Jessica Chastain et Zhang Ziyi. Voilà. Donc, ce calendrier en noir et blanc, intitulé « Émotionnel », ne se focalise pas sur des corps parfaits, mais sur la sensibilité et l'émotion, en mettant à nu l'âme des sujets qui finissent par être plus que nu que le nu. À une époque où les femmes sont représentées par les médias et partout ailleurs comme des ambassadrices de la perfection et de la beauté, j'ai estimé qu'il était important de rappeler à tous qu'il existe une autre beauté, plus réelle et authentique, non manipulée par la publicité ou autre, à estimer. Donc le photographe Peter Lindbergh. Voilà.
C'est peut-être moins caritatif.
Moins caritatif, évidemment, mais c'est vrai que c'est. Mais justement, on va revenir au caritatif avec quelque chose qui s'est passé aussi en région parisienne, à Janvry. C'est une habitante de cette commune, Fanny Dussard, qui avait envie de, en fait, qui a croisé quelqu'un qu'elle avait envie de prendre en photo, et de là est sortie l'idée de faire un calendrier qui a rassemblé donc 12 femmes âgées de 20 à 88 ans, et notamment Jacotte, 88 ans, a accepté d'être prise en photo et de faire un calendrier. Bon, voilà, évidemment, un calendrier, mais aussi engagé pour la bonne cause. Alors, au départ, là, vraiment, elle était partie sur faire un truc très léger, etc. Mais ça a pris de l'ampleur et du sens, notamment parce qu'un de ses modèles était orienté autour des éco-actions. Et donc, toute une partie de la composition des photos est faite autour des éco-actions et des éco-gestes. Donc, voilà, une façon de réduire ses emballages de façon un peu plus, peut-être un petit peu plus motivante pour certains, pour le tri. ce qu'il faut noter, c'est que les bénéfices servent aussi à l'accompagnement des personnes souffrant d'un cancer. Voilà, et donc la photographe a eu voilà beaucoup de membres de sa famille qui ont été touchés par cette maladie, et donc c'était une façon aussi d'apporter voilà un soutien financier aux personnes souffrant de cancer. Alors évidemment, pour terminer sur cette chronique sur les calendriers, vous avez sans doute reçu les pompiers lausériens hein, qui vous ont proposé leur calendrier. Alors pas de nu érotique sur le calendrier des pompiers lausériens. Mais par contre, si vous avez envie et que le pompier est un de vos fantasmes, vous pouvez vous rabattre sur le calendrier des Pompiers sans frontières, qui est une ONG, et donc voilà, qui fait ce petit projet aussi, voilà, et donc c'est voilà, c'est plus chaud que le calendrier des pompiers lausériens.
J'avais eu l'occasion aussi, mais c'était il y a quelques années déjà, d'avoir en main un calendrier des commerçants aussi. Il y avait eu, alors c'était pas sur la ville de Mende, mais des commerçants d'un centre-ville, d'une ville moyenne, voilà, avec quelques difficultés aussi pour attirer de nouvelles populations en centre-ville. Ils avaient édité un calendrier de soutien pour les commerçants, et du coup, ils se mettaient en scène dans leur commerce. C'était...
Alors, pour les 10 ans du Gévaudathlon qui va fêter ses 20 ans cette année, les filles, les bénévoles filles, avaient fait un calendrier très sympa. Qui est devenu voilà. Depuis collector, bien évidemment.
Voilà, donc vous pouvez évidemment retrouver tous les liens dont j'ai parlé sur notre page Facebook dès ce soir. Et puis, bah voilà, c'était une petite page un peu plus légère. Voilà.
Et si les agriculteurs veulent s'y mettre, donc l'appel est lancé.
On les invitera l'année prochaine dans notre émission pour nous présenter le projet. Ben voilà, donc on fait une petite virgule musicale et ensuite Adeline pour hashtag.
Ouais.
Allez, Adeline, hashtag.
Oui, donc pour cette rubrique, donc je vous rappelle que vous pouvez suivre sur Twitter avec le hashtag LoseActuali, tout ce qui se passe dans nos émissions, et puis aussi en utilisant le compte 48FM Mende. Alors, pour cette chronique hashtag, avant de vous parler des hashtags tendances, je voulais faire un petit tour de table. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours dans l'actualité, et du coup, je voulais avoir un petit quiz, savoir selon vous quel était, si vous aviez un hashtag chacun et chacune, à me donner sur l'actualité de cette semaine, qu'est-ce que ce serait ?
Le plus actuel, je crois, c'est celui qui est apparu là depuis quelques jours, le TSV.
En effet, c'en est un.
Je vais me faire taper par Dominique si je poursuis, mais apparemment, il y a un hashtag « Tout sauf Valls » qui est apparu sur les réseaux sociaux, qui viendrait un peu des hollandistes un peu fâchés contre l'ex-premier ministre maintenant.
Oui. Alors, en effet, il est couplé ce hashtag avec le hashtag Valls, justement, depuis ce week-end. Voilà, donc ça fait partie des deux hashtags que j'avais mis en tête de liste. Bien joué, Caroline. Guillaume, de ton côté, une idée?
Non, pas trop. J'avoue que j'ai un peu déconnecté après les assises de la médiation numérique où nous avons été ultra connectés. J'ai un peu déconnecté.
Alors, une idée peut-être sur un hashtag local? Non plus.
Non, pas. Bon, pas
tu passes ton tour alors.
Ouais, je passe mon tour.
Eric.
Moi, le hashtag que je suis en ce moment, c'est sur le Vendée Globe.
Ah d'accord. Ah bah alors, c'est pas celui qui fait partie des hashtags tendance de la semaine, mais en effet, du coup, on en est où? Parce que moi, j'ai pas suivi du coup.
Ils sont quasiment à la moitié là.
D'accord.
Et ils font le tour du monde, mais on a l'impression
qu'ils
font
une. Il y a un duo en tête qui.
Ils sont deux en tête et on a l'impression qu'ils font une course comme s'ils étaient sur un petit lac parce qu'ils font le tour du monde, mais ils sont quand même presque à vue l'un de l'autre, quoi.
D'accord.
Il y a de très très belles images parce que la Marine nationale les a rejoints.
Là, les a croisés.
Les a croisés. Et du coup, il y a des.
Dans l'océan Indien. Et après, c'est rarissime d'avoir des images comme ça. Autant on voit souvent des images de eux dans leur bateau, mais on ne voit pas forcément des images à l'extérieur.
Et franchement, quand on voit ces images-là, moi, je suis convaincue que c'est une des dernières grandes aventures humaines. Et quand on voit les images, ça le confirme.
C'est impressionnant.
Moi, j'ai un petit scoop.
Ah, allez, Dominique.
Parce qu'en 2018, il va y avoir la route du Rhum et un ancien Lozérien va être... va naviguer, va être...
Skipper.
Skipper, voilà.
Oui, c'est un skipper. C'est l'ancien directeur du centre de posture de la Canoë.
Ah.
Oui, ouais, qui habite à la Grande Motte et qui se lance dans l'aventure.
Et ben voilà.
Et ben super.
Très bien.
Une idée, Dominique, sur les hashtags, donc sur l'actualité Twitter. Est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux?
Oui, surtout. Voilà, c'est terrible. Je crois qu'aujourd'hui, il faut en prendre à laisser, mais il faut faire preuve surtout de beaucoup d'intelligence pour prendre du recul par rapport à tout ce qu'on nous dit. Et voilà, pourquoi on ne parle plus de François Hollande? Il est encore... on ne parle plus. On sait que... Eh bien, maintenant, ça va changer. Quoi.
Il n'a jamais été aussi haut dans les sondages.
Pardon?
Je crois qu'il a été jamais été aussi haut dans les sondages.
Ah bah oui, certainement.
Il va revenir populaire.
J'ai vu qu'il est remonté de plus de 10 points ou tout ça. C'est terrible, quoi. C'est terrible parce qu'on ne regarde plus la qualité humaine. On regarde le petit défaut, celui... voilà, j'ai l'impression qu'on est des rapaces. Qu'on est des rapaces sur cette information par rapport aux réseaux sociaux. Alors qu'on pourrait faire, on fait de toute façon aussi tant de belles choses.
Non, tout à fait. Du coup, on a un petit tour de table. On a quand même fait un petit tour de l'actu tendance de cette semaine. Il manquait, moi, dans mon petit tour d'horizon de ce matin, un hashtag sur Cazeneuve. Quand même.
Ah oui.
Donc, nommé Premier ministre.
Il vient juste de sortir, on n'a pas eu le temps de voir. Nous,
alors, c'était juste ce matin. et puis, un hashtag TPMP pour Touche pas à mon poste. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité.
C'est spécialiste du buzz, quoi.
Alors, oui, mais alors là, en l'occurrence, c'était rattaché à l'actualité sur le décès de l'ancien directeur de France Télévisions.
Ah oui.
Voilà, qui a soutenu et lancé l'émission TPMP. Donc il y a beaucoup de hashtags en lien avec à la fois l'actualité de ce décès et du coup un buzz autour de TPMP qu'il avait soutenu et lancé.
Mais enfin voilà, il faut aussi saluer effectivement la mémoire de Rémi Pimelin, voilà, qui était aussi le président depuis peu, mais depuis quelques mois, le président de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et donc le président de ce qui finance l'essentiel, la plus grosse partie des ressources des radios associatives et qui avait depuis son début de mandat une écoute tout à fait particulière et intéressée et respectueuse du travail fait par les presque 700 radios associatives en France.
Et puis, en lien quand même avec notre émission du jour, un hashtag sur la grippe aviaire, justement, et des alertes, voilà, en lien avec la grippe aviaire. Et puis, au niveau local,
Après
la vague... Assises Mednum, sur les Assises nationales de la médiation numérique. J'ai pas trouvé grand-chose cette semaine. Il se passe plein de choses, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, un peu moins. Et du coup, j'ai quand même eu un hashtag que j'ai trouvé ce matin qui s'appelle... Donc, hashtag jeune avec Marine sur la nomination de la représentante des jeunes FN en Lozère, qui s'appelle donc Christelle Delmas et qui a été nommée ces jours-ci. Voilà, c'est le seul hashtag que je retrouve qui tourne un petit peu.
Mais il y en a un qui va arriver puisque les films ont été lancés aujourd'hui.
En fait, l'anticipation d'actualité dans Loz Actuali. Donc, mais on anticipe les hashtags de la semaine prochaine.
Je suis sûr que le Lozère Nouvelle Vie va remonter en flèche avec cette belle campagne. Sur le travail, le télétravail et l'installation en Lozère.
Oui, le département de la Lozère lance une campagne de promotion autour de l'attractivité, notamment liée aux nouvelles formes de pratiques professionnelles, au télétravail, et puis pour attirer des profils et des nouvelles installations sur notre territoire. Donc c'est une campagne de 3 spots qui va être lancée cette semaine et où du coup le département a fait appel
à quelques acteurs locaux,
voilà, que vous reconnaîtrez peut-être ou pas, mais en tout cas, vous, voilà, guettez les réseaux sociaux aussi cette semaine parce que les spots vont sortir ces jours-ci.
Ouais, ils sont d'ores et déjà sur le site lozère.fr.
Voilà.
Très bien.
Voilà pour cette chronique hashtag.
Merci. On va faire une coupure musicale. On va dire au revoir à Eric qui doit nous laisser.
Et, au revoir tout le monde.
Salut Eric.
Et puis voilà, on poursuit en musique avec Zoufris Maragas.
Tête boire, et si demain je voulais plus te voir, et si demain j'en avais marre de voir ta gueule dans le miroir, et si demain j'en pouvais plus de savoir les courbes de ton cul, et si demain c'était foutu, et si demain fallait que je parte, et si demain fallait que j'embarque dans une autre barque que la tienne, direction où le vent me mène, et si demain j'étais chômeur, et si demain j'attrapais peur, et si demain j'avais plus de thunes de plus pouvoir t'offrir la lune, et si demain ma gourmandise faisait qu'une autre que toi ne luise dans les remises de mes fantasmes, sur les gravats de mes vieilles histoires, et si demain il faisait bon, et si demain je mettais les voiles, et si demain j'étais heureux, que j'avais plus besoin de que dalle. Et si demain est plus de guerre, plus de flics et plus de soldats, que les humains à part entière, plus de président, plus de roi, plus de PDG, plus de notaire, rien que des gens comme toi et moi, les personnes formées de chair pour 60 ans sur notre terre, avec 2 jambes et puis 2 bras, 32 dents et des choses à faire, pourquoi pas se prendre dans les bras. Enfin baisser les barrières qui font que tu ne me vois pas, que tu restes là caché derrière des règlements et puis des lois, des dictatures et des frontières, les habitudes et les manières qui font un étranger de moi, qui me font étranger de toi. Et si demain il faisait beau, et si demain je mettais les voiles, et si demain j'étais heureux, que j'avais plus besoin que dalle.
Allez, on se retrouve pour la dernière partie. Ça y est, c'est moi qui maintenant. la bouche pleine.
Guillaume.
Dernière partie avec la revue de presse. Et Eric nous a laissé sa proposition pour aujourd'hui. Il souhaitait parler des élections autrichiennes, puisque vous savez que les Autrichiennes et les Autrichiens ont dû se déplacer à nouveau le week-end dernier pour élire leur président. En effet, puisqu'il y avait eu une annulation qui avait été faite, et finalement le résultat était le même, puisque c'est Alexander Van der Bellen qui gagne en vert, et presque contre tous, et surtout contre l'extrême droite en Autriche. Du reste, on a parlé de la possibilité qu'un pays de l'Union européenne passe sous une présidence extrémiste que du nouveau président, mais cette élection nous donne plusieurs indications. Déjà que les grands partis traditionnels ne sont plus majoritaires, du reste, aucun n'était au second tour de cette élection présidentielle. Et il existe également une autre solution que les extrêmes populistes, voilà, qui sont avec ces résultats qui sont constatés en Autriche. Donc c'est un jeune président de 72 ans qui est élu, mais qui est partisan de l'Europe, de l'ouverture, de l'écologie, et j'en passe. Mais voilà, Eric ne voulait pas refaire son programme, mais plutôt saluer son élection. Et puis un petit mot aussi sur une autre bonne nouvelle qu'Eric nous a laissée. Celle-là concerne l'écologie et les USA. Puisque la lutte des peuples autochtones du Dakota du Nord contre un oléoduc géant a remporté une belle victoire. Ce dimanche 4 décembre, le gouvernement fédéral a annoncé que le trajet envisagé pour l'oléoduc ne serait pas autorisé et qu'un autre itinéraire devrait être envisagé. C'est un fort coup d'arrêt à ce projet qui suscitait une farouche résistance des peuples amérindiens et des écologistes aux États-Unis. Voilà, c'était ce qui avait retenu Eric dans l'actualité de ces derniers jours. Adeline, de quoi vas-tu nous parler ?
Alors, j'ai choisi une revue de presse un peu dans la continuité quand même de ce qui s'est passé du coup les dernières semaines, puisque suite aux 4e assises nationales qui se sont tenues du coup en Lozère, les assises nationales de la médiation numérique, la secrétaire d'État Axelle Lemaire a fait plusieurs annonces quelques jours après être venue en Lozère. Et notamment, elle a présenté le baromètre du numérique en partenariat avec le Conseil général de l'économie et l'ARCEP. Et aussi, elle a annoncé la création d'un laboratoire d'analyse et de décryptage du numérique. Donc, un premier baromètre pour nous donner un petit peu les tendances, et je vais vous donner en tout cas les principaux chiffres que j'ai retenus sur les usages numériques et donc cette économie. Et puis, la création d'un laboratoire d'analyse qui permettra de décrypter, d'anticiper aussi les besoins des populations et les éventuelles difficultés des publics à s'approprier ces outils et ces usages numériques. On sait que ce sont des enjeux, notamment des enjeux d'accès aux droits dans une époque où la dématérialisation des services publics est de plus en plus forte. Ça sera du coup, je pense, un pilier aussi pour l'État, pour pouvoir dérouler des politiques publiques ou des actions en lien avec les résultats de ce futur laboratoire d'analyse. Alors, quelques chiffres sur le baromètre du numérique. Donc, tout d'abord, évidemment, on en a beaucoup parlé aussi dans le cadre des assises, une année 2016 qui marque un tournant dans l'utilisation d'Internet pour les démarches administratives et fiscales. On enregistre une nette progression, passant de 53% d'adoption par les Français en 2015 à 62% en 2016. Cette hausse de 9 points est la plus forte enregistrée depuis le lancement du baromètre. Néanmoins, des freins structurels perdurent dans l'appropriation des usages.
C'est un peu lié aussi au fait qu'une partie des déclarations étaient obligatoires sur le net pour une certaine catégorie de revenus.
J'y venais aussi. Cette progression, elle peut aussi évidemment s'expliquer par le fait que de plus en plus de démarches sont obligatoires désormais en ligne et que de ce fait, les populations sont obligées de s'y mettre aussi en quelque sorte. Un chiffre aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est par rapport aux revenus. En fait, on se rend compte que la fracture entre les diplômés et les non-diplômés est de plus en plus forte concernant le rapport au numérique et que 16% des personnes non connectées ne le sont pas à cause d'un problème de coût. Et donc, du coup, ont des difficultés à financièrement avoir une connexion Internet, notamment pour leurs démarches administratives, ce qui pose la question du non-recours aux droits quand ces personnes-là ne peuvent pas faire appel à leurs droits via les démarches administratives en ligne. Et puis du coup, à l'inverse, 70% des personnes ayant un haut revenu ont effectué des démarches en ligne contre seulement 54% pour les bas revenus. Voilà, avoir accès aujourd'hui à Internet est une condition d'intégration à notre société pour une majorité des Français, toujours plus importante, d'où la nécessité de prendre garde à ne pas trop rajouter, en tout cas d'accompagner les nouvelles démarches en ligne pour pas creuser la fracture entre les différents types de populations qui sont inégales face au rapport au numérique. Et puis du coup, une citation que je voulais vous lire pour finir cette rapide revue de presse de Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui dit, donc je le cite, « Internet facilite l'accès aux droits, mais pas pour tous. La fracture numérique éloigne encore davantage un public vulnérable de son accès à l'information. C'est pourquoi il faut offrir des modalités d'information variées et conserver des lieux d'accueil physiques. » Voilà, c'était aussi tous les enjeux de la dernière édition des Assises qui s'est tenue à Mende. Et puis, les engagements, notamment de la secrétaire d'État ces jours-ci autour de ces sujets, laissent présager quand même pas mal d'avancées dans ce domaine-là, de prise en considération des difficultés de certains types de publics autour du numérique. Donc voilà, à suivre. Et puis les premiers résultats du laboratoire d'analyse et de décryptage du numérique, je pense, seront divulgués début 2017. Donc on pourra aussi avoir un peu de recul et des visions un peu plus justes aussi sur tous les fantasmes qui entourent les outils et les usages numériques.
Bien, merci Anne-Line. Et on termine cette revue de presse avec Caroline qui revient sur les calendriers.
Oui, je reviens sur les calendriers. Alors, un calendrier de l'Avent un petit peu original et bien sympathique, c'est un peu l'esprit de Noël quand même. Donc, c'est un article du Figaro qui met en avant le calendrier de l'Avent inversé qui est proposé par l'association belge Solidarité SDF de Mons. Et qui propose aux internautes, via sa page Facebook, là, depuis le 1er décembre, de déposer chaque jour dans un petit panier des victuailles ou des objets qui vont pouvoir être offerts au SDF le 25 décembre. L'association organisera ce jour-là un grand repas avec les SDF du secteur. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était sympa, j'avais entendu ça à la radio, je suis allée rechercher l'article. Donc cet article du Figaro fait le point, c'est quelque chose qui plaît du coup beaucoup en France, hein, l'initiative est belge, mais elle plaît beaucoup en France. Et il y a d'autres initiatives qui existent comme ça en France. Pôle emploi, Lozère, a choisi cette année de remplir des sacs à dos avec ses salariés, qui seront aussi remis à des personnes démunies au moment des fêtes. Voilà, c'est une opération locale. Rien ne vous empêche de remplir votre petit calendrier de l'Avent inversé et de trouver une personne dans le besoin proche de chez vous le jour de Noël ou juste avant pour faire des heureux. Voilà, il y a plein d'initiatives comme ça. Et je trouvais qu'à la veille de ces fêtes, c'était important à souligner.
Très bien, bah merci beaucoup Caroline. On vous rappelle qu'évidemment on peut réécouter cette émission le jeudi à 19h, le mardi à 12h30.
On peut retrouver Dominique et sa famille sur les marchés de Noël de Lozère avec leur foie gras et leurs bons produits de canard.
Voilà, et puis vous pouvez retrouver évidemment sur les réseaux sociaux ce soir cette émission avec évidemment tous les liens des articles et des sujets évoqués.
Et on attend le calendrier des agriculteurs.
Voilà, le message est lancé. À bientôt et on vous souhaite une très bonne quinzaine. Rendez-vous dans 15 jours avec une émission un peu spéciale. On ne vous en dit pas plus.
Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.